VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Idi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. Au Congo-Brazzaville, les opposants réclament un dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, FROCAD, une des principales plateformes d'opposition au président congolais Denis Sassou Nguesso, estime que la tenue d'un dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale est l'unique possibilité de sortie de crise au Congo-Brazzaville. Même demande du côté du CNR, le Conseil national des républicains, du pasteur Tatan Toumi. On écoute Sosten Samba du CNR au micro de Nicolas Pinault.
Le révérend pasteur Toumi demande qu'il y ait cessation des hostilités, qu'il y ait cessez-le-feu et qu'il faut instaurer un dialogue entre M. Denis Sassou Nguesso et le CNR du révérend pasteur Toumi. Et que ce dialogue-là doit être supervisé par l'opinion internationale, donc l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies. Et aujourd'hui, par rapport à la situation qui prévoit dans le pool, le révérend pasteur Toumi demande le dialogue pour épargner la population civile de ces massacres-là. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, M. Nicolas, que la population du pool est en proie au bombardement. C'est une population civile et désarmée qui ne demande rien qu'autre que la paix.
Sosten Samba, joint à Montréal par Nicolas Pinault. Crime de l'ex-président tchadien Hissène Habré, Human Rights Watch prépare un rapport accablant sur le rôle de la France. Que savait Paris? C'est la question que se pose l'ONG de défense des droits humains basée à New York, qui enquête depuis 1999 sur le système de répression d'Hissène Habré et a préparé deux rapports en voie de finalisation. Un premier sur les relations entre le Tchad et les États-Unis et un second sur la France. Du fait de la coopération militaire entre Paris et N'Djamena, beaucoup s'interrogent sur le rôle de Paris à l'époque. Nicolas Pinault a joint l'auteur du rapport, Henri Tulliet, consultant pour Human Rights Watch.
La France était certainement informée des exactions qui étaient commises au Tchad à l'époque du régime de Hissène Habré. Peut-être pas dans l'ampleur et dans le détail, comme ces preuves sont sorties dans le procès de Hissène Habré, mais il est indéniable que la France avait des informations. Il suffit par exemple de voir les nombreux rapports d'Amnesty International qui étaient publiés à l'époque sur le Tchad, notamment sur le sud du Tchad, où de 83 à 85 s'est déroulée une violente répression contre les populations civiles, surnommée Septembre Noir. On peut aussi rappeler que l'ambassadeur de France à l'époque a survolé cette région par avion et a pu constater depuis son avion les nombreux villages qui avaient été brûlés.
Au-delà de l'information, de la connaissance de ces faits, est-ce que la France a aidé d'une manière ou d'une autre le régime Hissène Habré?
On peut même dire que la France a permis à Hissène Habré de se maintenir au pouvoir pendant de nombreuses années, puisque Habré, qui était en guerre avec la Libye, avait besoin d'un soutien extérieur pour faire la guerre aux Libyens, mais aussi aux soldats du Gount, ce gouvernement provisoire de Gukuni Wedei, appuyé par les Libyens et qui essayait de reprendre le pouvoir. Ainsi, la France a déployé une très grosse opération militaire en 83-84 qui s'appelle l'opération Manta, qui est le plus grand déploiement de l'armée française depuis la guerre d'Algérie. Puis à partir de 87, l'opération Épervier, où là on a déployé des avions d'observation et d'attaque. Mais pendant toute la durée du régime de Hissène Habré, il y avait aussi une grande coopération militaire, puisque la France a livré une quantité impressionnante d'armes, a mis à disposition de l'état-major de l'armée tchadienne des conseillers français, des officiers de l'armée française. Et puis, par exemple, la France avait aussi sur place des agents de la DGSE qui devaient, en théorie, faire remonter l'information vers Paris, notamment sur les exactions qui étaient commises. On a aussi la preuve que des formations étaient faites entre des agents de la DGSE et des agents de la DDS, la Direction de la Documentation et de la Sécurité, qui est la police politique du régime Habré et le principal organe responsable des crimes qui ont été commis.
Est-ce que la France a toujours montré une volonté de faire la lumière ou elle oppose forcément le secret défense?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de nos enquêtes, on a eu du mal à obtenir des entretiens, des rendez-vous avec des personnes qui jouaient un rôle important à cette période. On a eu, et je les remercie, des personnes qui ont évidemment accepté de nous parler. Nous avons aussi demandé à ce que les archives de l'Élysée portant sur cette époque soient déclarées classifié, ce qui nous a été refusé afin de ne pas porter atteinte à la politique étrangère de la France.
Henri Tulliet, consultant de Human Rights Watch, joint à Paris.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Attaque contre l'ONU au Mali à Gao. Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué la double attaque contre l'ONU à Gao dans le nord du Mali et en fait 4 morts dans un casque bleu chinois. C'est ce que rapporte aujourd'hui SITE, une organisation américaine qui surveille les sites internet islamistes. ACMI affirme que l'attentat a été exécuté par des membres de Al-Mourabitoun, groupe du chef djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, qui s'est rendu célèbre par ses opérations spectaculaires dans le Sahel. ACMI promet de communiquer ultérieurement plus de détails. Pour en savoir davantage sur l'attaque contre le camp de la MINUSMA à Bourgoundié, tenu par le contingent chinois, écoutons notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
La forte détonation qui a été entendue s'est produite au niveau du camp de la MINUSMA 6 à Bourgoundié, en plein centre-ville, un camp tenu par le contingent chinois. C'est un véhicule piégé qui a voulu forcer le passage qui a explosé à la rentrée du camp, suivi de coups de feu qui seraient venus de l'extérieur. Des coups de feu qui ont duré plusieurs longues minutes, obligeant les populations prises de panique à se précipiter dans leurs maisons. Du coup, les rues sont devenues désertes. Des hélicoptères ont passé des heures à tourner au-dessus de la ville. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
A souligner que l'attaque a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Côte d'Ivoire maintenant, le président ivoirien Alassane Ouattara a mis en place un groupe d'experts chargé de la rédaction d'une nouvelle constitution, parmi lesquels figure un de ses proches favorable à la levée du verrou de la limitation des mandats présidentiels. Ce groupe de 10 experts, qui a un mois pour faire des propositions à M. Ouattara, sera dirigé par le professeur de droit Boniface Obu-Raga, qui avait déjà travaillé sur l'actuelle constitution. Le tout dernier épisode d'Ebola en Guinée-Conakry a pris fin. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS souligne que la Guinée entre maintenant dans une phase dite de surveillance soutenue de 90 jours. Le pays vient de passer 42 jours sans nouveau cas depuis le second test négatif sur le dernier patient, soit 2 fois la durée maximale d'incubation. Et puis au Kenya, Nairobi a réaffirmé mardi sa volonté de fermer d'ici à novembre le camp de réfugiés de Dadaab, qui accueille essentiellement des Somaliens fuyant leur pays en guerre. Le point avec Maïlys Hegel.
Avec plus de 350 000 personnes, ce camp est le plus grand du monde. Il est situé près de la frontière avec la Somalie, déchirée par une guerre civile depuis plus de 20 ans. Depuis un mois, le gouvernement kényan répète qu'il veut fermer le camp de réfugiés somaliens pour des raisons de sécurité. Nairobi affirme, sans donner de preuves, que c'est à Dadaab qu'ont été planifiées les attaques des islamistes Shebab contre le centre commercial Westgate en 2013 et l'université de Garissa en 2015. Les ONG et l'ONU qualifient cette décision de très préoccupante. Des militants des droits de l'homme ont signalé que le rapatriement des réfugiés constituerait une violation du droit international. Selon Ben Lawrence, auteur du livre City of Thorns, qui raconte la vie de réfugiés à Dadaab, le Kenya fait de la surenchère pour obtenir plus d'argent pour l'accueil des réfugiés, construire des écoles et des routes dans le nord-est du pays et renforcer la sécurité autour des camps. La dernière fois que le Kenya a menacé de fermer Dadaab, en avril 2015, les États-Unis avaient promis 45 millions de dollars.
Kenya toujours, le président Uhuru Kenyatta a eu des consultations au palais présidentiel hier avec le leader de l'opposition Raila Odinga et le chef de file de l'opposition au Sénat, Moses Wetangulu. Et ce, dans l'espoir de faire baisser la tension dans le pays. Cette rencontre fait suite à la décision de la coalition d'opposition de suspendre ses manifestations hebdomadaires pour exiger la suppression de la commission électorale nationale qu'elle accuse de partialité. Au Mozambique, guérilla dans le centre du pays plus de 20 ans après la fin de la guerre civile. Les affrontements entre l'armée et l'opposition dans la région de Gorongosa terrorisent la population qui fuit la zone. La police accuse la RENAMO, principal parti d'opposition entré en insurrection, d'avoir mené 18 attaques ces 2 dernières semaines sur la route principale du pays, faisant 7 morts et plus de 30 blessés. Dans la capitale mozambicaine, des tractations ont repris la semaine dernière pour entamer un nouveau processus de paix. Et puis en Syrie, les forces kurdes appuyées par la coalition internationale ont ouvert un nouveau front contre le groupe djihadiste État islamique dans la province d'Alep, dans le nord du pays, après avoir lancé le 24 mai une offensive contre l'EI dans la province de Raqqa. Les forces démocratiques syriennes étendent maintenant leur combat anti-État islamique à l'ouest dans cette région. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.